Ce jour-là, j'ai eu un immense choc, en fait. J'en ai eu un si grand que je n'en ai jamais parlé.
En fait, adolescente, je me sentais déplacée, comme un geste ou comme une parole peuvent être déplacées.
En famille, en amour, au travail, en société, trouve-t-on jamais tout à fait sa place ? Ce sentiment d'être en adéquation avec soi-même, de se rapprocher de la personne que l'on a l'ambition d'être. Une carrière pertinente qui nous rend heureux, un entourage qui nous aime pour ce que nous sommes, une vie qui nous ressemble ou tout du moins nous trahisse le moins possible. Parfois, ce sentiment de cohérence arrive vite, parfois plus tard, quelquefois jamais. Le plus souvent, il se déplace par vagues. Je suis Marion Ruggieri et dans le podcast Les Vagues, un tout nouveau podcast de Elle, j'interrogerai des personnalités sur le moment où elles se sont senties à leur place pour la première fois, mais aussi le moment où elles se sont senties déplacées. Je me rendrai chez elles ou dans un lieu cher à leurs yeux pour qu'elles me racontent ce jour fondateur où elles se sont dit « Là, je suis bien, je suis là où j'ai toujours voulu être et c'est moi ». Découvrez et écoutez Les Vagues à partir du 24 octobre sur toutes les plateformes de podcast. Bonne écoute.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Elle s'attable. Le podcast des femmes qui changent le monde via nos assiettes.
Depuis l'aube de l'humanité, les femmes nous nourrissent. Aujourd'hui encore, elles produisent plus de 70% de la nourriture consommée dans le monde et cuisinent la quasi-totalité des repas. Elles sont aussi nombreuses à s'investir pour une alimentation de meilleure qualité. Chefs réputées ou talentueuses méconnues, elles sont les invitées de notre podcast « Elle s'attable ».
Elle s'attable.
Au fil des mots et des rires, elles nous expliquent comment, en traçant leur route, elles inventent les chemins gourmands de demain.
Elle s'attable, une émission présentée par Danielle Jerkens, directrice de la rédaction du magazine Elle à table.
Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Elle s'attable, le podcast du magazine Elle à table. Aujourd'hui, nous vous emmenons sous les toits, à Paris, dans le 6e arrondissement, sous la pluie, bientôt la neige d'ailleurs. Et nous sommes donc dans un petit bureau, sous la charpente. Pour rejoindre ce 5e étage, on a traversé une boutique que le monde entier connaît, dont le nom est synonyme d'excellence à la française dans le monde entier, et où ça sentait aujourd'hui beaucoup le beurre, car il y a des galettes. Merci à Polonia Poilane.
Merci de me recevoir aujourd'hui.
Merci infiniment.
Elle s'attable.
Vous portez un nom que le monde entier connaît, qui est synonyme de pain et d'excellence. On va raconter un petit peu, vous allez nous raconter un peu votre parcours, vous allez nous raconter un petit peu ce que c'est d'incarner comme ça, d'être presque une marque soi-même, de ce que c'est qu'être boulangère. Quand j'ai préparé cet entretien, je me suis aperçue qu'en fait, vous avez toujours quasiment voulu exercer le métier que vous exercez aujourd'hui.
Absolument. Depuis que je suis toute petite, on me demande la question archi-classique,
voire banale,
voire agaçante. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras grande ? Et j'ai toujours répondu, mais en fait, je vais prendre la suite de mon père à la tête de Poilane. Et puis, ce qui était une forme d'évidence, ce qui était une forme de suite logique, s'est confirmé avec le temps, que ce soit en passant des mercredis ou des samedis à la boulangerie et d'apprendre les différents métiers, d'abord en, juste par observation et puis ensuite en étant capable de faire des petites choses utiles. Et ça, c'est ce qui m'a permis de me dire, quand j'ai eu 16 ans et que ma maman m'a encouragée à commencer mon apprentissage en fournil, en me disant, en gros, si tu es sérieuse à l'idée de prendre la suite de ton père un jour, va falloir t'y mettre. Et donc, c'est ce que j'ai fait pendant des ponts du mois de mai, au tournant du millénium. Et puis, quand mes parents sont décédés en fin octobre 2002, l'évidence de prendre la suite, parce que j'avais eu tout cet apprentissage depuis que j'étais toute petite de cet univers.
Vous avez 18 ans à l'époque. Mm-hmm. C'est forcément un choc.
Oui.
Vous vous montrez assez réservée,
Ce qui surprend, après tout, l'émotion se manifeste de tas de manières différentes. Et très vite, vous montez le premier jour ici.
Ouais. En fait, lorsque mes parents sont décédés, je travaillais au Fournil. Donc, je connaissais mon entreprise, je savais là où je voulais aller. Et je faisais une année off, une année de césure, avant d'aller à l'université aux États-Unis. Parce que je connaissais les équipes de mon père et avais encore en tête ce souhait de pouvoir être un jour la suivante, prendre la succession de mon père, ben, finalement ça s'est fait du jour au lendemain, plus vite que prévu. Mais j'avais surtout une chouette équipe, celle de mon papa, sur laquelle m'appuyaient les amis de mes parents pour conseils, pour regards, pour soutien, là où je manquais d'expérience. Et ça fait 20 ans désormais, donc je peux affirmer que je continue de m'appuyer, d'être soutenue par certains amis,
oui, par tout
certains collègues, parce que ça fait partie d'un maillage, peut-être un petit peu comme le levain qui vient faire gonfler cet édifice ou une miche de pain.
S'il y a une forme de magie, de poésie,
complètement,
dans ce métier,
mais
vous-même, vous êtes la fille de deux poètes d'une certaine façon, mais des poètes qui étaient très ancrés, avec votre père qui n'avait pas forcément choisi ce métier, mais qui a su en faire être le porte-parole d'un savoir millénaire qu'il a réinventé, et votre mère qui était architecte, créatrice de bijoux. Aujourd'hui, à 38 ans, avec 20 ans de recul, qu'est-ce que vous pensez que vous devez à ces deux personnalités très particulières, très originales ?
Mes parents, et je rajouterais même mon grand-père, qui avait une approche à son métier qui était très différente. Lorsqu'en 1932, mon grand-père s'installe aux 8 rues du Cherche-Midi, il y avait une demi-douzaine de boulangers, il s'attirait les foudres de la profession parce qu'il faisait pas comme tout le monde.
Et d'ailleurs, vous ne faites toujours pas de baguettes.
Toujours pas comme tout le monde. Donc, c'est vrai qu'on a cette culture d'une certaine forme de singularité, d'aller jusqu'au bout et à la substance des choses. Et parce qu'on ne faisait pas tout comme tout le monde, finalement, ça nous a donné une liberté pour explorer. Et c'est vrai que ce soit la précision que mon grand-père m'a appris en corrigeant mon geste quand je mettais les sablés dans les sacs ou les timbres sur les enveloppes. Et donc, ça a été des gestes qui ont nourri ma pratique à la fois boulangère mais aussi de chef d'entreprise. Mes deux parents, qui étaient effectivement boulangers, architectes, et qui apportaient leur savoir-faire, leur regard sur le monde et leur singularité. Et parmi les choses qu'ils m'ont transmis, parmi les choses les plus précieuses, c'était de cultiver son esprit critique, de ne pas prendre les choses pour argent comptant, d'être curieux, d'aller plus loin que la valeur faciale de ce qu'on se dit. Et c'est ce qui fait que dans ma famille, on s'intéresse à du champ jusqu'au moulin, jusqu'au pétrin. Comment est-ce qu'on fabrique le pain et quelles sont les valeurs que l'on met derrière? Mais ma maman m'a aussi enseigné la planification, pas seulement parce qu'elle était architecte, mais parce que ça faisait partie de sa culture d'architecte au sens large. C'était une femme qui avait un regard assez précis et une exigence qu'elle m'a transmise. Pour tout ça, l'idée étant de se dire, on tire les choses vers le haut et on reste curieux de la vie et des choses. Au risque de vous paraître complètement banal, j'utilise volontairement des mots larges parce que je pense que ce sont des principes assez universels. Cultiver son esprit critique et surtout, surtout, être curieux et avoir faim de ça.
Je vis une expérience tout à fait extraordinaire. En tant que boulanger, j'ai eu la chance d'avoir un père qui m'a transmis une technique ancestrale qui a complètement été perdue de vue. Et cette technique était la technique des boulangers de la fin du siècle dernier et du début de ce siècle. Alors, ce qui était extraordinaire, c'est que je n'utilise pas de four à vapeur, je n'utilise pas de produits d'améliorant, de lécithine, d'acide ascorbique, de tout l'arsenal des améliorants à la fois alimentaires et techniques qui sont utilisés en boulangerie, et j'y arrive quand même, je paye mon percepteur et je fais face aux charges de personnel. Alors ça quand même, c'est quand même assez extraordinaire.
Ce qui a fait la réputation mondiale, universelle, osons le dire, de Poilane, c'est justement ces fameuses grosses miches. Alors elles font quasiment 2 kilos. Elles contiennent très peu d'ingrédients, elles contiennent de la farine,
ouais,
produite en France, farine bise, très caractéristique. Elles contiennent de l'eau, elles contiennent du sel, du sel de mer, si ma mémoire est bonne.
Oui, tout à fait.
Sel de Guérande, je crois.
Oui, tout à fait.
Et du levain.
Et du levain.
Un levain qui a une histoire, lui aussi.
Oui. Alors, il y a deux choses. Dans les 4 ingrédients qui font le pain, mais bon, c'est peut-être finalement que 3, puisque si on reparle du levain, ça n'est qu'un morceau de pâte. Enfin, pas que, mais c'est un morceau de pâte de la fournée précédente qui va servir, je simplifie, à ensemencer la fournée suivante. Mais vous avez parlé aussi, Daniel, du grain. de la farine. Et c'est vrai que quelque chose auquel je suis assez attachée, c'est d'essayer de changer ce mot un peu générique que l'on utilise volontiers, qui est dire « on met de la farine ». Et j'aimerais que essayer de planter la graine, pardon, des mauvais jeux de mots, mais c'est facile dans mon métier et ça s'y prête. Et autant aller jusqu'au bout de ce qui fait notre quotidien. Mais parlons du grain. Et effectivement, mes miches de pain au levain de blé, ce sont un peu moins de 2 kilos de farine de blé. C'est une farine bise qui est... Le grain de blé est écrasé sous une meule de pierre, ce qui permet de garder l'huile naturelle du grain, donc on n'a pas besoin d'avoir d'additifs. On garde l'ensemble du grain, on l'écrase.
Et des nutriments.
Et des nutriments. On enlève un petit peu de certaines enveloppes extérieures et on garde le reste. Et on a un pain qui nourrit et un pain qui se garde. Mais pour revenir à cette question de levain, effectivement, un des ingrédients qui fait notre pain, c'est le levain. Et le levain aujourd'hui, c'est un peu un mot magique pour, d'abord parce qu'il fait rêver, et ensuite, c'est un mot qui peut revêtir plein d'habits différents. Donc c'est intéressant quand un boulanger vous dit que moi je fais du pain au levain, que l'on puisse se dire, quelle est la nature de ton pain au levain ? Comment est-ce que tu fais ton levain ? Et donc chez nous, c'est un morceau de pâte d'une fournée que l'on met de côté et qui va servir de point de départ d'ensemencement pour la fournée suivante. Et ce que ça veut dire, c'est que ce petit morceau de pâte, il est porteur d'un petit morceau de pâte de la fournée précédente, et de celle d'avant, et de celle encore d'avant, jusqu'en 1932, quand mon grand-père a commencé.
Aujourd'hui, Poilane exporte dans le monde entier, vous produisez 5 à 7 000 miches de pain par jour, vous avez une manufacture.
Alors, d'abord, Poilane est une entreprise familiale parisienne. Notre région, c'est Paris. Ce que ça implique, c'est que nos boutiques sont essentiellement parisiennes. On a 5 adresses désormais. On a ouvert au printemps 2022 une boutique au 39 rue de Lévis. Et on a, au-delà de ça, depuis 40 ans, depuis le début des années 80, une manufacture. Le lieu qui, au-delà de nos boutiques, où on peut servir directement nos clients, on peut... fabriquer du pain entre une moyenne effectivement de 5000 pains par jour, où on peut fabriquer le pain qui va être livré chez nos revendeurs, donc des partenaires de distribution en finale qui vont vendre nos pains, nos biscuits, en plus de leurs produits, qu'ils soient spécialisés, un fromager, un charcutier, un poissonnier, ou qu'ils soient plus généralistes, une petite, une grande surface, une épicerie. Et puis, on a aussi des restaurateurs, qu'ils fassent des tartines ou qu'ils choisissent notre pain pour accompagner leur menu 3 étoiles, eh bien, on est capable de leur apporter un pain de qualité qui vient soutenir leur proposition. Et c'est celui-là que ma maman a dessiné au début des années 80, en alliant avec la connaissance de mon père de son métier, une proposition qui est vraiment très, très différente de ce que vous verrez nulle part ailleurs et qu'ils ont appelé une manufacture, à une époque où ils voulaient valoriser le fait que dans l'organisation de notre production, c'est la main de l'homme qui est au cœur de la fabrication.
Qui l'emporte.
Et c'est pas tellement comme autrefois, mais plus le principe de se dire la main de l'homme a une intelligence et une sophistication qui est supérieure aux technologies contemporaines. 40 ans plus tard, ça reste le cas. Et je pense qu'à l'échelle de notre humanité, c'est-à-dire notre génération d'humains, je devrais le préciser, on ne verra probablement pas beaucoup d'énormes changements comme on a pu voir ces 100 dernières années. Le pétrin mécanique parce qu'on a de l'électricité, le four est électrique parce qu'on a de l'électricité, de la levure. Ça, ce sont des inventions relativement contemporaines ou en tout cas relativement récentes. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui est incroyable, c'est qu'on vit une époque où on a toutes ces avancées technologiques-là. Mais on a aussi toute la sophistication de nos paires de mains qui nous permettent d'être les thermomètres, d'être les récepteurs de ce qui va accompagner une belle fournée.
Un an déjà que les boulangers, en faisant le compte des matières premières qui augmentent, ont l'amère sensation de ne pas voir le bout du tunnel.
Par rapport à la moyenne de 2500 ou 3000 euros, il faut que je prévoie 7000 euros en novembre et 9000 euros en décembre. Donc c'est quand même énorme, quoi.
Si nous devions essayer d'amortir l'augmentation de notre facture d'électricité, il faudrait alors proposer ce pain à 6 euros.
Avec sa trentaine d'employés, il a lancé la course aux petites économies. Lancer des cuissons supplémentaires la nuit en heure creuse, éviter d'allumer et éteindre le four entre les fournées, ne plus allumer son enseigne. Une attente inquiète de solutions sur laquelle pèse l'incertitude. Nul ne sait à combien grimpera le prix de l'électricité au cœur de l'hiver.
C'est la pire des solutions. J'ai déjà plein de confrères qui ont mis la clé sous la porte. J'espère que moi, je ne devrais pas le faire. Mais je ne sais pas comment je vais faire, honnêtement.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette manufacture, il y a 24 fours qui sont tous des fours à bois sur le modèle du four historique
rue du Cherche-Midi.
Rue du Cherche-Midi, qui était au sous-sol.
Au sous-sol de
là où on est. Bâtiment. Et qu'ils sont, si j'ai bien compris, disposés en étoile.
En cercle.
Absolument. Autour d'une réserve de bois.
Tout à fait.
Alors, c'est intéressant cette idée d'être resté à la cuisson à bois, alors qu'il y avait quand même, d'une certaine façon, le four électrique est plus facile. Mmh. Et ça rencontre finalement l'époque. Puisqu'aujourd'hui, alors que le prix de l'électricité s'est envolé et pose d'énormes problèmes à un certain nombre de boulangers, en quoi c'est...
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ce choix du bois reste totalement pertinent aujourd'hui.
Il y a plusieurs choses dans ce que vous dites qu'il faut qu'on décortique pour nos auditeurs, parce que vous connaissez très bien la manufacture, et je pense qu'il faut qu'on plante un tout petit peu le décor. La manufacture, c'est effectivement un gros camembert, au centre duquel on a un cercle à bois, un plus petit camembert, où on stocke le bois. Ce sont des chutes de bois qui sont d'une scierie qui sont recoupées pour rentrer dans notre foyer. Et c'est ce bois qui serait autrement perdu, sert à chauffer nos fours en briques réfractaires qui vont bientôt accueillir pain, biscuits et pâtisseries boulangères quand on est rue du Cherche-Midi, boulevard de Grenelle notamment, nos pâtisseries. Donc, si je reviens sur la manufacture, on a 24 fours, comme autant de petites boulangeries de quartier, mises les unes à côté des autres, qui nous permettent d'agréger des plus gros volumes de pain, parce que si vous faites 24 fournées fois X fournées par jour, et bien là vous arrivez à dégager du volume
de pain.
Exactement. Donc, pour en revenir à nos moutons, pourquoi est-ce qu'un four en briques réfractaires chauffé au bois reste pertinent aujourd'hui? Alors, je pense qu'une partie de la réponse déjà, c'est que on vient de là. Notre savoir-faire boulanger est issu de ce choix de mon grand-père en 1932 de travailler sur un four en briques réfractaires chauffé au bois. Nos recettes et le goût distinctif de notre pain vient aussi de cet outil. Donc si on changeait pour un four électrique, c'est vrai qu'on changerait cet équilibre. Donc je pense que c'est pour ça que mon grand-père ou mon père n'ont pas changé cette méthodologie. Après, il y a une autre raison. Il y a toutes les raisons climatiques que vous évoquez qui sont très pertinentes aujourd'hui. Mais il y a une raison de qualité aussi. Un four en briques réfractaires, finalement, c'est une chaleur qui est très chaude, mais les briques réfractaires, malgré tout, absorbent une bonne partie de l'humidité, et donc en fait, on a un four qui est très chaud, mais une chaleur qui est assez douce. Et cette chaleur, elle permet de donner au pain le temps de gonfler, mais aussi de perdre juste suffisamment d'eau pour être cuit à cœur, et donc du coup avoir deux effets. Un, d'avoir un pain qui est bien cuit, ce qui veut dire un pain qui va être plus digeste, puisque l'enjeu de la cuisson, c'est quand même la digestibilité de cette masse de pâte. Et ensuite, de se conserver plus longtemps, parce que avec une croûte épaisse qui protège de l'extérieur, mais avec une mie qui est correctement cuite, on n'a pas l'effet cocotte-minute ou Tupperware qui fait que le pain aurait tendance à moisir un petit peu plus vite. Donc c'est là où aujourd'hui, pour moi, se trouve la véritable intelligence de ce four. Et lorsque vous descendez au fournil, ce qui est frappant, c'est que c'est une chaleur qui enveloppe. Quelle que soit la saison de l'année, quelle que soit la chaleur du jour, c'est jamais une chaleur qui est agressive. Et je pense que ça se reflète à la fois dans le rythme du travail, mais aussi forcément du coup sur la qualité des produits. Nos pains, ils vont avoir une belle croûte qui est épaisse mais pas brûlée, pas caramélisée, pas ce côté un peu chewing-gum brun, mais une belle croûte croquante et à cœur, un pain qui est bien cuit. et qui du coup permet digestibilité et durabilité.
Vous êtes la troisième génération. L'entreprise rassemble un peu plus de 150 personnes aujourd'hui. Vous avez décidé de vous inscrire dans les pas de vos pères et grands-pères pour poursuivre l'aventure. De quelle manière est-ce qu'on écrit sa propre histoire là-dedans?
En s'appropriant sa matière. Parce que je rigole parce que c'est une des premières questions qu'on m'a posées quand j'ai pris la suite de mes parents. Pendant, allez, vraiment au moins 2-3 ans, on m'a dit ça va être quoi la pâte apollonienne. Et en fait, je trouvais cette question hyper dure à répondre et elle me frustrait beaucoup parce que je me disais mais je suis à la tête d'une entreprise familiale, le but du jeu c'est surtout pas d'imprimer ma pâte, pardon du mauvais jeu de mots à nouveau, mais c'est surtout de me dire qu'est-ce que je vais... Enfin, je me voyais plus comme un passeur, là je reprends des termes que j'ai entendus pour d'autres entrepreneurs d'entreprises familiales, mais on est plus dans une logique de transmission et pas forcément de révolution, mais en même temps c'est cette phrase « pour que rien ne change, tout doit bouger quand même ». Donc je pense que vous touchez exactement du doigt le propos, c'est de se dire comment est-ce que l'on arrive à avancer. Et c'est vrai qu'on peut se dire que rien n'a changé facilement et pourtant il y a tellement de choses qui ont bougé en 20 ans et en 90 ans. Et avec un regard au-dessus de l'épaule, je pense que ce qui était une question qui était frustrante précédemment, je pense que je peux l'accueillir de façon plus sereine aujourd'hui où je peux vous dire « mais en fait, pour moi, ce n'est pas une question tellement de quelle est ma pâte, mais comment est-ce que je m'approprie ma matière et comment est-ce que j'honore à la fois le levain commencé par mon grand-père, les développements de mon père et qu'est-ce que ça m'inspire pour moi aujourd'hui. Et pour moi, c'est un regard, mon regard de troisième génération autour des céréales et de la fermentation. Et de dire, si je devais résumer, que j'aimerais qu'on change notre regard sur notre métier et qu'on arrête de parler du mot farine de façon générique. On en parlait en début d'émission et c'est vraiment un de mes dadas ces dernières années parce que finalement, réduire notre métier à une céréale, le blé qui certes domine, ça reflète pas la diversité des grains qui ont alimenté nos civilisations. Alors je ratisse large en disant mot civilisation, mais concrètement, à partir du moment où on commence à cultiver du grain, on vient petit à petit façonner nos sociétés. Pourquoi ? Parce que on cultive pas un grain tout seul pour avoir 3 épis au bout d'une année et de se dire « c'est cool, ouais. Il va falloir que je tienne tout l'hiver avec ça ». Mais donc du coup, on rassemble des personnes, donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on organise nos sociétés. Ensuite, on se retrouve avec notre butin, notre grain.
Il faut le stocker
pendant une année. À l'abri. Alors, à la fois d'intempéries, mais aussi du pillage, de l'attaque ou bref. Et donc, du coup, là, on commence à organiser des places fortes, des villes. Et en fait, l'histoire du grain accompagne l'histoire de nos civilisations, de nos sociétés, notre histoire au sens large. Et c'est tout ça, avec le recul de 20 ans à la tête de Poilane, mais 38 ans dans cette famille, et de me dire, mais finalement, c'est ça aussi que je veux, c'est le regard que j'aimerais aiguiser auprès des gens qui prêtent attention à cette matière merveilleuse, le pain.
Il y a une question que je trouve en ce moment particulièrement importante, c'est celle du monde agricole.
Oui.
L'âge moyen des agriculteurs en France aujourd'hui est de 55 ans.
Et la moitié d'entre eux vont partir à la retraite sans être remplacés.
On sait qu'on est aussi sur une période où le climat change. Comment est-ce qu'une entreprise comme la vôtre, qui dépend, dont la matière première est tellement fondamentale, essaye d'accompagner cela, d'anticiper ce type de changement?
De prime abord, je ne pourrais pas utiliser le mot accompagner parce qu'en fait, je suis en bout de chaîne. Donc c'est plutôt comment est-ce que je suis à l'écoute pour en gros remonter mes manches, aiguiser mes couteaux et être prêt à accueillir cette inconstance, accueillir les évolutions. Et je pense que ce que mon grand-père a initié de dialogue entre les meuniers et en amont les agriculteurs, et ce que je cultive encore aujourd'hui, c'est ce qui nous permet d'accueillir cette inconstance et les différences. Par exemple, la récolte 2021 a été compliqué. Les gluten avaient tendance à relâcher. Et donc, ça demandait un travail différent au fournil. Et donc, un jeune boulanger se retrouvait dans une situation plus compliquée que nos boulangers qui avaient plus d'expérience pour s'ajuster et réagir. Et ensuite, c'est alimenter le dialogue au quotidien avec les différents acteurs de la chaîne, de l'agriculteur au meunier, au boulanger, au fournil, pour qu'on puisse se dire, on ne peut pas vraiment anticiper, mais en tout cas essayer de vraiment être bien tous sur la même longueur d'onde et de bien comprendre d'où l'on vient, ce qui se passe en ce moment et comment est-ce que l'on agit en conséquence. Ma réponse, c'est une réponse en mouvement au sens où ce que les vérités d'aujourd'hui seront pas forcément adaptées à demain. Et je pense que c'est vraiment la meilleure réponse que nous on a aujourd'hui, c'est notre approche sur la fabrication qui est de nous dire on utilise nos cinq sens et la bibliothèque d'expérience que l'on a fournée après fournée et année d'expérience après année d'expérience pour s'ajuster.
Comment imaginez-vous les 20 ans à venir à Polonia Polan ?
Plein de choses. Plein de choses parce que d'abord, expliciter une partie des messages que l'on vient d'échanger ensemble parce que finalement, les céréales, la fermentation, on y comprend un petit peu aujourd'hui, on y comprendra un peu plus demain, mais il y a encore tellement de choses à découvrir. Je travaille constamment sur des nouvelles recettes. Ce qui est un peu frustrant, c'est de se dire que parfois, vous pouvez avoir l'impression, quand vous entrez dans la boutique, d'une certaine constance.
N'est pas XXL, qui n'est pas pléthorique.
Non, mais en même temps, on a une bonne douzaine de pains différents qui ont chacun leur recette. On travaille trois céréales côté pain, le blé, le seigle, le maïs. Mais effectivement, exactement de ce point de départ-là, qui est mon pain de maïs, qui il y a quelques années, je mets sur les étagères pour la première fois, alors que ça faisait 10 ans que je travaillais dessus au fournil, je me suis dit, écoute, si tu veux prouver ton point que le pain, c'est un univers de céréales et de fermentation, et que ça te prend à chaque fois 10 ans pour sortir un pain, t'es pas sorti de l'auberge, ma cocotte.
Tu vas donc en faire 4 ou 5 dans ta vie, ça va être super.
Ouais, non mais bon, que j'en fasse 4 ou 5 dans ma vie, ça me pose pas de problème. Mais la question, c'est plutôt de me dire, comment est-ce que j'arrive à partager ce regard ? Et je me suis dit, bon, d'abord, il faut qu'on comprenne le goût des différentes céréales. Donc, j'ai imaginé, avec mes petits biscuits, mes petits sablés, non seulement, alors, j'ai la version historique qui est ma petite punition farine de blé. J'ai décliné les recettes avec différentes céréales en adaptant à chaque fois aux spécificités de la céréale. Alors, certaines, par exemple, l'avoine, je l'ai rendue végane parce que je peux et que ça s'y prête et que c'était une façon aussi de pouvoir proposer quelque chose en anticipation d'une période où il pourrait ne pas y avoir de beurre et de me dire le jour où il y a une véritable crise du beurre, qu'est-ce que j'ai sur mon étagère ? Mais il y en a d'autres comme le maïs qui ont un goût naturellement assez sucré, donc comment est-ce qu'on trouve cet équilibre entre un biscuit où on réduit la quantité de sucre mais un biscuit où le sucre permet quand même de tenir la recette ? Et donc en fait, cette collection de biscuits, elle a pour vocation non seulement d'être porteur de tous ces messages-là, mais surtout de commencer à donner des référentiels de goût qui, demain, pourront rendre plus évident les prochains pains que je développerai ou les prochaines pâtisseries boulangères ou bon bref.
Elle s'attable.
On va terminer cet entretien avec deux questions.
Oui.
La première va peut-être vous énerver à Polonia Polan, mais je la pose quand même. Est-ce qu'être une femme, c'est particulier, ou vous pensez qu'être une femme fait qu'on fonctionne différemment ?
Catégoriquement, en tant que femme, on fonctionne différemment. C'est génial. Et de toute façon, j'ai pas le choix. Je suis une femme et il n'appartient qu'à moi de l'assumer pleinement. Et ça veut dire que oui, on vit dans un monde d'hommes fait pour les hommes. Et donc, ça veut dire qu'il faut savoir composer avec. Mais je vais pas m'excuser d'être une femme. Et surtout, le sexe importe peu, notamment dans un métier d'homme, en sachant que notre savoir-faire, le pain, est un savoir-faire de femme. Je vais pas m'excuser de mon sexe, alors qu'en fait, seule la compétence de mon travail doit primer.
En fait, je vais même avoir encore deux questions, j'en aurais eu trois pour terminer. La seconde, qu'est-ce que vous souhaitez transmettre à la prochaine génération ?
Déjà, un petit peu de ce que j'ai reçu, ou en tout cas autant de ce que j'ai reçu et compris de ce que j'ai reçu. Et puis, ce que j'aurais vécu, le goût du pain, peut-être un peu basique de dire ça, mais c'est parce que je pense que c'est une bonne première brique. Et puis, cette curiosité que j'ai reçue, pour moi, elle m'a tellement apporté de rencontres et elle m'a tellement fait grandir. Et ensuite, le goût aussi, avec rien, de faire beaucoup. Et c'est vrai que quand on regarde la simplicité des ingrédients qui font le pain, on se dit que c'est pas grand-chose et pourtant on peut en faire des choses extraordinaires.
Diriez-vous que les femmes peuvent changer le monde à travers nos assiettes ou pas ?
Mais oui, évidemment que oui. Et je vous renverrai la question en me disant, mais qu'est-ce que vous voulez dire par ça ? Parce que, est-ce que c'est dire... Ce que l'on propose dans une assiette, c'est une proposition qui permet de révolutionner le corps et l'esprit. Le corps d'abord parce qu'on satisfait un besoin primaire, manger. Et ensuite l'esprit parce qu'une fois qu'on a libéré le corps de sa fonction première, on peut libérer d'autres réflexions, d'une part. Mais surtout, De dire ce que l'on mange et la satisfaction de que l'on a à ce que l'on mange permet d'alimenter la réflexion.
Merci infiniment à Polonia Polan pour ce moment passé plein de saveurs et de mie et de bonheur. J'espère à tous que cet épisode du podcast Elsa Table vous aura plu. N'hésitez pas à le liker, à le commenter et même à le recommander. Et je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode d'Elsa Table.
Elsa Table, le podcast des femmes qui changent le monde via nos assiettes. Elsa Table, en podcast sur toutes les plateformes de streaming.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Sick of being upsold at gyms?
My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum.
At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.